Bonjour à tous et bienvenue dans les studios de Radio Vassivière. Nous sommes là pour une heure en compagnie de Stéphane Bonin, notre praticien en hypnose. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Oula, il est fort le micro là. Ça fait un peu la grosse voix. Alors aujourd'hui, un petit peu délicat le sujet que vous me demandez d'introduire, si je puis dire d'ailleurs, puisque nous allons parler d'hypnose et de troubles sexuels. Donc on va essayer de se mettre à l'aise. Hein. On sait que, je pense, combien de pourcents de personnes à peu près sont... Vous savez, vous avez un ordre d'idée de nombre de gens qui peuvent souffrir de troubles sexuels au moins une fois dans sa vie, j'imagine.
J'allais dire, tout le monde souffre de troubles sexuels dans sa vie au moins un moment parce qu'il y a des difficultés, il y a plein de choses qui font que dans la vie, on n'a pas un parcours linéaire qui fait que on est soit tout dans le bonheur ou tout dans le malheur. Et c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, donc effectivement, il y a matière à faire des bas.
Mais alors, effectivement, nous allons voir qu'il y a des troubles sexuels plus importants que d'autres, plus pathologiques que d'autres,
exactement,
etc.
Voilà.
On va faire les personnes un petit peu néophytes dans le domaine, hein, en tout cas. Et vous allez peut-être d'abord nous expliquer qu'est-ce que sont les troubles sexuels.
D'accord. Mais d'une manière générale, c'est l'ensemble des troubles qui empêchent l'expression d'une sexualité épanouissante. Voilà, tout simplement. Ça, c'est, effectivement, il y a des définitions qui sont beaucoup plus scientifiques, mais là, on reste dans quelque chose de très...
Donc, trouble sexuel ne veut pas forcément dire maladie.
Non.
Ça veut simplement dire qu'on ne prend pas son pied, si je puis dire.
Ça peut être ça, ouais. Pour le dire vulgairement, effectivement, ça peut être ça, ou ça peut être simplement des relations qui sont frustrantes, et puis tout simplement qui amènent une frustration importante, et si ça se pérennise, amène d'autres troubles après, plus tard.
Je voudrais juste rappeler aux auditeurs, parce que je ne l'ai pas fait, donc du coup, cette émission dure une heure, que vous allez donc nous parler des troubles sexuels et qu'ensuite nous allons avoir une séance d'hypnose, de relaxation à la fin de cette heure, que les gens peuvent nous appeler au 05 55 64 71 11. Vous n'êtes pas obligé de dire votre prénom ni votre nom, hein, parce que quand il s'agit de sujets un peu comme ça,
bien sûr,
hein, on peut rester anonyme. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions à poser à notre professionnel, eh bien, n'hésitez pas. Donc, la définition des troubles sexuels, donc, c'est qu'on n'a pas une sexualité épanouissante, c'est ça, en tout cas qui ne nous correspond pas. Mais encore.
C'est-à-dire.
Je sais pas. J'imagine que les troubles sexuels, ce n'est pas simplement. C'est compliqué, hein, de parler de ça. Moi,
ah oui,
j'ai un peu de mal. Non, mais j'imagine que ce n'est pas que ce genre de choses et que ça peut être bien plus grave, évidemment.
C'est-à-dire, alors je comprends pas votre question.
Ne le faites pas exprès, Stéphane, parce que c'est déjà très compliqué pour moi. Vous me dites que la définition des troubles sexuels, c'est ce qui ne nous épanouit pas. Bon, dans cette catégorie-là, vous comprendrez bien qu'il y a plusieurs classifications, justement, de l'épanouissement sexuel ou pas. Alors, il y a des choses qui sont récurrentes, les choses qui ne durent que quelques instants parce qu'on n'est pas bien ce jour-là, etc. Enfin, voilà.
Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre un petit peu comment se construit, enfin, j'allais dire, comment, en fait, les troubles peuvent apparaître sur un... Parce que dans un rapport amoureux, il y a plusieurs phases, effectivement, et les troubles peuvent apparaître sur ces différentes phases. Donc, il y a eu plusieurs classifications, Master Johnson. Bon, dans un rapport normal, il y a une phase d'excitation, les premières vibrations érotiques, la phase de plateau, excitation avancée qui précède l'orgasme, et l'orgasme lui-même, avec, bon, chez l'homme, une éjaculation, chez la femme, contraction rythmée, des muscles pelviens. Donc voilà, simplement, et la phase de résolution. Donc ces quatre phases, effectivement, les troubles peuvent apparaître sur l'une ou plusieurs. Voilà.
Ouais, ou plusieurs, ok.
Voilà, effectivement.
Quatre phases peuvent être touchées par ces troubles, en fait.
Exactement.
Il y a des troubles pour chaque phase.
Bien sûr. Mais bon, là, il y a une classification qui est beaucoup plus simple, donc c'est de Kaplan-Singer, qui parle, elle, de la phase de désir, la phase d'excitation et la phase d'orgasme. Et au niveau, j'allais dire, de la prise en charge en psychothérapie, on utilise plutôt cette classification-là, qui est beaucoup plus simple. L'autre, qui est beaucoup plus technique et qui était dans la recherche de Master et Johnson, très fouillée au niveau de...
D'accord.
Ce qui était plutôt une recherche anatomique aussi.
D'accord. Donc, on parle, j'imagine, avec ces deux classifications, vous pouvez, donc, un petit peu... Quand quelqu'un vient vous voir en cabinet, vous dit, bon, moi, ça... au moment de l'orgasme que j'y arrive pas, que voilà,
ouais,
ou c'est au moment, j'ai pas de désir pour personne, voilà. Donc là, vous classifiez, vous dites, ah, bon, alors si c'est
on travaille plus de la même manière, effectivement. Deuxième, voilà, on travaille plus de la même manière, on prend pas la personne en charge de la même manière, effectivement, si c'est que, bon, en même temps, il y a cette classification qui facilite les choses, mais il y a toute la composante personnelle qui accompagne tout au long de la sexualité, tout au long de la vie sexuelle, la personne. Les représentations mentales, les fantasmes, les constructions donc de l'idée même du rapport sexuel et les composantes familiales aussi. Parce que implicitement, on transmet à ses enfants sa propre manière d'entrevoir la sexualité. Si on a une sexualité plutôt libérée ou plutôt tabou ou des choses comme ça. Et c'est vrai que même à travers le non-dit, on peut transmettre pas mal de choses. Voilà aussi. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte.
Donc effectivement, les troubles sexuels, ça peut venir donc du coup de ces représentations mentales, mais aussi des problèmes physiques, enfin anatomiques.
Il peut y avoir des problèmes, voilà, au niveau anatomique. Effectivement, bon, ça paraît simple comme je le présente, mais c'est un peu plus subtil. Bon, on a des troubles sexuels qui touchent le désir, donc le désir primaire, donc insuffisant de désir primaire. La personne, ça, c'est une personne qui n'a jamais connu de désir.
Jamais.
Un peu donc ballot. Ça arrive, mais bon, effectivement, ça se, voilà. L'insuffisance du désir secondaire, donc c'est la manifestation d'un syndrome plus profond, qui peut être une dépression, une maladie sous-jacente, quelque chose à faire. Donc une
fatigue.
Une
fatigue passagère, non ?
Oui, mais bon, voilà, il y a plein de... On parlait une fois de stress poussé à son extrême, on parlait de burn-out, donc c'est
ça
vrai
qu'on... Ça fait une chute de la libido, c'est
voilà, exactement, on parle de libido en psychanalyse, voilà, effectivement. L'insuffisance de désir global, donc qu'il n'y a aucune stimulation, ne suscite le désir. C'est des gens qui restent, on parle de frigidité, bon, qui restent...
Et ça, c'est pour les deux sexes, l'homme et la femme.
Oui, c'est tous sexes confondus. Effectivement, il n'y a pas de troubles. Il n'y a pas de troubles qui sont beaucoup plus... Les hommes, on parle beaucoup moins facilement, mais on retrouve les deux chez les deux côtés. Donc, il n'y a pas de côté plus privilégié que l'autre, de ce côté-là. Et l'insuffisance situationnelle, où là, l'insuffisance de désir situationnel, où là, le désir résulte non plus de stimulation normale, mais de stimulation exceptionnelle.
Le masochisme.
Le fétichisme, certaines...
Le sadisme.
Voilà, effectivement. Donc là, on sort un peu du cadre.
Donc là, c'est pas normal d'être...
On parle de trouble du désir.
D'accord.
Voilà.
On n'est plus dans la normalité, donc.
On n'est plus dans la norme, mais bon, attention avec le mot.
Effectivement. Mais ça peut soigner, donc.
Ça peut se soigner si on est dans un cadre, j'allais dire, où il n'y a pas de partage et si on ne s'épanouit pas. Attention, je reprends la définition du début. Effectivement, dans une relation, certains ont besoin de ça pour pouvoir s'épanouir à travers d'autres personnes qui sont dans la situation inverse et qui s'épanouissent dans l'autre versant. Donc là, on est dans un... Il faut faire attention par rapport à ce qu'on a dit au départ.
Hein. Alors peut-être que si on reprend dans la classification, donc on va donc en trois parties, c'est ça, hein, le désir et l'excitation.
Désir, deux, la phase d'excitation
et trois, l'orgasme. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner à chaque type, enfin à chaque moment donc du rapport sexuel, à quoi correspondent les maladies ? Par exemple, les maladies liées au problème d'excitation, c'est quoi ? Enfin, les maladies, je ne sais pas si on dit des maladies d'ailleurs. Troubles.
Ouais. Les troubles, enfin, par rapport au... Non, je vais y venir. Donc, au désir, effectivement, c'est les gens qui ont peu d'intérêt à faire. Donc, ils n'ont pas de désir, ils ne vont pas vers l'autre, il n'y aura pas d'échange de tendresse ou des choses comme ça, où la personne reste, entre guillemets, indifférente.
Ouais.
Voilà, tout simplement.
D'accord.
J'allais dire, ça, c'est quelque chose où la personne se passe de... Non, le désir, les fleurs même pas. Donc, c'est même pas vécu comme un problème. C'est souvent dans un couple... C'est le conjoint qui amène l'autre à consulter parce que il y a problème pour elle.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Donc dans la phase 2, dans les troubles de l'excitation, donc c'est l'incapacité à ressentir une grande ou la moindre sensation physique pendant l'acte sexuel. Donc ça peut être une douleur aussi, ou une gêne. Donc chez l'homme, la difficulté de l'érection, ça c'est le trouble de l'excitation type. Donc soit elle est absente, donc il n'y a pas d'érection du tout, brève. Donc, il y a une érection, et puis après, c'est la détumescence, on va parler bien. Ou alors, elle est incomplète, donc voilà.
Elle est incomplète, ça veut dire quoi
Classiquement,
on va pas jusqu'au bout, comme on dit.
En bande mou, voilà, tout simplement. Et donc, dans le, la notion, enfin, bon, une prise en charge des gens, souvent des hommes, le mot impuissant et impuissance, c'est un mot à bannir parce qu'effectivement, c'est pas lié aux, aux performances. Mmh. C'est vrai que dans notre société de performance, un homme qui a une érection insuffisante ou absente est impuissant.
Alors, dans ces cas-là, donc, de je sais pas comment vous avez dit les mots bien.
Dans les difficultés d'érection.
Dans ces trois difficultés, vous, c'est ça, vous avez parlé de nos, donc des érections absentes, brèves ou incomplètes. Mm-hmm. Ça peut être un problème anatomique.
Ça j'en parlerai après. Effectivement, ouais. Ça peut être lié simplement à un problème anatomique. C'est pour ça, c'est ce que je vous dirai après. Mais ils vont, c'est à partir de là où je demande aux gens aussi d'aller consulter un médecin. Mais souvent, ils ont fait la démarche inverse. Avant de venir en consultation, ils ont fait faire un bilan pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de cause anatomique à leurs troubles.
Et ça, parce que je sais pas, hein, c'est encore une question un peu compliquée à poser, mais ce genre de difficulté peut-elle venir en fonction de sa partenaire, c'est-à-dire si la partenaire, elle nous plaît pas tellement.
Oui, mais là on est plus dans le désir.
D'accord.
Effectivement, un trouble du désir peut affecter le trouble de l'excitation.
D'accord. Ouais.
Puisque c'est un petit peu, on va crescendo effectivement. Mmh. Si le désir est pas là, l'excitation sera difficile à venir.
D'accord.
Voilà. Ok.
Allez-y, je vous laisse continuer.
Et alors, en ce qui concerne la femme, donc c'est vrai que les troubles de l'excitation, c'est la lubrification qui est insuffisante, voire absente. Donc la pénétration. La pénétration est douloureuse. Non. La sécheresse vaginale, on va dire. Voilà, tout simplement.
Oui.
Qui peut aller jusqu'au vaginisme, qui est un spasme du vagin qui interdit toute pénétration. Et c'est extrêmement douloureux aussi.
Mmh. D'accord.
Donc voilà.
Effectivement.
Bon, il y a pas mal de choses. Oui. Et la phase 3, donc la phase de l'orgasme, donc chez l'homme, ça se traduit par soit une éjaculation prématurée, retardée, ou une éjaculation sans plaisir, voire douloureuse pour les hommes, ou absente.
D'accord. L'éjaculation prématurée, c'est l'éjaculation précoce.
Précoce, qu'on appelle, exactement. Ou là, ça c'est une trouble de l'excitation qui est trop, qui est mal maîtrisée.
Retardée, c'est qu'on a du mal à jouir, enfin, c'est ça?
Oui, enfin, qui est retardé.
Ça
ou,
dure très longtemps.
Ouais, voilà, c'est exactement. Okay. Voilà, et pour la femme, bon, bah, une femme en général n'a pas systématiquement d'orgasme, mais là, il peut être carrément absent.
D'accord.
Voilà. L'excitation est là et l'orgasme n'arrive pas.
Ah, d'accord.
La femme reste en plateau, je veux dire, et puis voilà.
Elle doit être un peu déçue, alors, du coup.
Quelque part, oui.
Un peu frustrée.
Donc voilà, ça,
d'accord.
C'est sur ces trois. Sur ces trois phases, effectivement, qu'on travaille et pour lesquelles la prise en charge est différente.
D'accord.
Déjà.
Ok. Donc, je vois qu'il y a écrit sur votre petite fiche l'esprit et la sexualité, effectivement, une relation de cause à effet, sûrement.
Oui. Et là, ça, j'allais dire, cette phase-là, enfin, cette partie-là influe sur les trois phases qu'on a vues précédemment, où effectivement, l'état d'esprit dans lequel on est face à la sexualité conditionne les trois phases que j'avais, dont on a parlé.
Alors
là.
Par exemple, une question, mais quand on dit, quand une femme vient vous voir et dit j'ai l'impression que mon mari m'aime plus parce que il fait plus l'amour comme avant, ou il éjacule plus, ou j'en sais rien, est-ce qu'elle peut avoir raison, par exemple? Oui, ça veut dire que peut-être...
C'est son interprétation, effectivement, mais bon, l'idéal, ça serait que le mari vienne, et c'est lui qui vient en parler en disant, effectivement, non. J'ai...
Souvent, on entend ça, je sais pas, moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois ça, en disant, ah, j'ai l'impression qu'il m'aime plus, ou qu'il se passe un truc, ou qu'il est allé voir ailleurs, parce que il n'est plus comme avant. D'accord. C'est vrai, ça peut être révélateur, non?
Ça peut être révélateur de difficultés dans le couple, effectivement, aussi.
Ouais.
Effectivement, oui, mais ça c'est... Voilà. Donc, c'était pour dire qu'en fait, bon, la sexualité dépend des pensées, des émotions, et c'est, bon... un stress intense un jour fait que on peut pas avoir forcément envie de faire l'amour et puis de se retrouver.
Et alors justement, à partir de quel moment on s'inquiète? Quand est-ce que
ça... Quand ça se pérennise et que ça engendre des difficultés relationnelles, et soit dans le couple, ou même qui peuvent retentir sur la vie professionnelle de certaines personnes, parce que c'est tout. On n'est pas heureux chez soi et puis il y a plein de choses qui se greffent sur ça. Voilà.
Ça se ressent au boulot. Ouais.
Voilà. Donc, tout dépend, cet esprit qui conditionne cette attitude mentale négative ou positive vis-à-vis de la sexualité.
Mmh.
Voilà. Mais en sachant que certains troubles peuvent apparaître et puis redisparaître, ça dépend aussi. On n'est pas non plus tout le temps dans la performance et au top vis-à-vis des rapports sexuels. Mmh. Voilà.
Il est normal, j'imagine, dans la vie d'un partenaire ou d'une partenaire, d'avoir ces troubles et de ne pas s'en inquiéter.
Bien sûr, Bien sûr, mm-hmm. c'est passager, effectivement. On s'en inquiète quand ça se
pérennise. Effectivement, on parle toujours de performance dans, ces, oui, dans ce domaine-là. Donc, oui.
Mais la culpabilité, je reviens à ça, bon, peut être terrible par rapport à ça, effectivement. Si
oui, c'est un cercle vicieux, j'imagine.
Ah oui, c'est un cercle vicieux, parce que d'un seul coup, si on tombe dans le négativisme, on va faire boule de neige et ça sera l'inverse. Et elle a touché toutes les phases de la sexualité et de l'expression.
Mm-hmm.
Voilà,
d'accord.
Du rapport sexuel.
D'accord. Alors, donc ça, c'est l'esprit. Je ne sais pas, vous voulez encore nous dire quelque chose sur le rapport entre l'esprit et la sexualité
ou... Non, enfin, disons que par rapport aux généralités, j'ai dit l'essentiel mm-hmm. de la sexualité. Effectivement, après, peut-être dans une autre partie, on parlera de la manière de travailler avec l'hypnose mm-hmm. et surtout l'auto-hypnose. Mm-hmm. C'est surtout par rapport à ça. J'apprends aux gens
à se détendre
d'abord, mais pas forcément, de travailler aussi sur eux-mêmes, avec eux-mêmes, pour pouvoir dépasser les difficultés quand elles se présentent.
Mm-hmm.
Voilà, d'accord. Tout simplement.
Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus profondément des problèmes anatomiques, justement, qui peuvent...
Les causes organiques.
Voilà ce que vous avez peut-être appelé les causes organiques.
Donc, ce que j'appelle les causes organiques. Bon, il y a les troubles de la vie, j'allais dire les troubles de la vie quotidienne, donc qui se liaient. On a fait la fête un jour.
Ouais.
On a abusé un petit peu d'alcool. On a trop très bien mangé, j'allais dire.
Ouais. Ah oui. Ah, quand on mange trop aussi.
Oui, on dit. Il y a un proverbe qui dit que ventre replet n'étudie pas volontiers. Donc, ça vaut aussi pour ça. Donc voilà. Et donc là, tout ce qui est lié, ce sont des troubles qui sont bénins et passagers, effectivement. Mmh. Donc ça peut être une fatigue intense, un stress au travail, etc. Donc chez les hommes, souvent, le diabète pose des problèmes d'érection.
D'accord.
Et les troubles de l'érection souvent révèlent un diabète.
D'accord.
Des gens vont consulter pour des troubles de l'érection, vont voir le médecin traitant et d'un seul coup, le médecin traitant dit voilà, il y a un diabète. Il faut savoir que le sucre chez les diabétiques a détruit les terminaisons nerveuses et effectivement engendre des troubles de l'érection.
D'accord.
Voilà. Bon, tout ce qu'il y a, maladies cardiaques, mais certaines maladies cardiaques comme l'infarctus par exemple, donne des impuissances secondaires. Alors, je mets impuissance entre guillemets chez l'homme, simplement parce que non pas il y a une répercussion directe, simplement parce que l'homme a peur après.
D'accord. Oui,
à
oui,
cause
oui.
de l'effort d'avoir un autre infarctus et que ça se passe mal pour lui.
C'est vrai, on peut mourir de plaisir, j'imagine.
Ouais, oui, oui. Il y a un président de la Troisième République, je crois. C'était... Et donc voilà, les maladies cardiaques, bon, certains troubles rénaux, donc certaines insuffisances rénales, puisque dans le système de, j'allais dire, anatomique de l'érection, notamment, il y a certaines hormones qui se régulent la tension artérielle, qui sont absentes ou qui font mm-hmm. défaut et qui peuvent empêcher ça. Certaines tumeurs, bien entendu.
Et ça arrive avec l'âge ou est-ce qu'on peut être toute sa vie confronté à des problèmes de troubles sexuels parce que anatomiquement parlant...
Ah oui, il peut y avoir simplement des malformations.
Ouais.
Ça, c'est possible aussi.
Ouais.
Certaines malformations, il y a des... qui peuvent engendrer des troubles sexuels.
D'accord.
Certaines malformations congénitales, chez le petit garçon notamment, un méa qui est mal positionné peut donner des éjaculations précoces, mais réflexes, simplement parce que le méa est mal positionné.
Ouais.
Donc ça, c'est une correction chirurgicale à faire.
Ouais. Et par exemple, une question hors sujet peut-être, mais justement, éjaculation précoce, à partir de... Et c'est quoi une éjaculation précoce? Et on éjacule avant l'acte ou deux secondes après avoir commencé? Enfin,
du mal à gérer son excitation.
Ouais.
Où là, c'est, l'excitation déborde et on a du mal à contrôler justement cette phase d'excitation.
D'accord.
Voilà, ça c'est l'éjaculation précoce, effectivement.
Il ouais. ne faut pas compter 10 secondes.
Il n'y a pas de chronomètre pour dire.
C'est bon.
Non. Ouais. Effectivement. Donc voilà, et il peut y avoir certains troubles du système de la régulation des hormones sexuelles, notamment au niveau de l'hypophyse.
D'accord.
Qui peut donner des troubles sexuels, mais ça, ce sont des investigations, des examens qui permettent de le détecter, de mettre en place bon, ce qu'il faut, soit un traitement. Équilibrer un diabète, ça peut être certains médicaments cardiaques. Il y a certains médicaments qui peuvent induire, notamment les hypotenseurs, des troubles de la sexualité aussi, au niveau chez l'homme, pour les troubles de l'érection. Voilà. Bon, il y a tout ce qui est paralysie, tout ce qui est d'origine traumatique, les paraplégiques. Voilà, des mutilations dues à des accidents ou des choses comme ça aussi, des organes sexuels. Certaines interventions chirurgicales qui ont été un petit peu trop larges. Un petit peu trop destructrice, certains médicaments et bien entendu tout ce qui est alcoolisme et toxicomanie. Ça a fait l'objet d'une émission, mais c'est vrai que ça peut induire aussi des troubles de la sexualité.
De l'émission, de quoi vous parlez ?
sur les toxicomanies.
Ah oui, 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 sur de notre émission. C'est-à-dire que quand on est alcoolique ou toxicomane, on peut plus, on a des troubles sexuels.
Certains, hein, ouais, certaines drogues qui, bon, comme l'alcool, qui touche le cerveau et tout système nerveux, mmh, effectivement, engendre des troubles de la transmission de l'influx, du désir et tout ça.
Donc on ne fait plus, enfin c'est quoi alors, c'est on est éjaculateur, enfin, précoce ou le contraire?
On n'est ni l'un ni l'autre. Il y a des problèmes,
on a plus
envie, problèmes d'érection et problèmes, ah, carrément de désir, bien entendu.
D'accord.
Ouais. Ah. Qui peut toucher de toute façon toutes les phases.
D'accord, bon, très bien. Alors, d'un point de vue médical, ça se soigne quand même assez bien ou pas, ce genre de choses?
Au niveau, pour le diabète, il suffit d'équilibrer un diabète, et puis c'est vrai que les choses reviennent un petit peu. Bon, maintenant, il y a pas mal de choses. Il y a le médicament qui s'appelle le Viagra.
Oui, j'allais vous en parler.
À partir d'un certain âge, qui permet de pallier à certaines insuffisances, puisque, bon, ils permettent d'induire une érection rapidement. Mm-hmm. Donc, et c'est vrai que c'est des médicaments qui sont pas mal utilisés dans des cas extrêmes, j'allais dire, de troubles de l'érection. Mmh. Donc voilà. Et sinon, bon, tout ce qui est, bon, certains médicaments qui permettent de réguler certaines hormones qu'on reprend de manière artificielle, qu'on amène et qui peuvent réguler le désir et l'excitation. Voilà.
La sexualité, elle n'est pas la même quand on a 16 ans et quand on en a 60 aussi, enfin, j'imagine. Donc, c'est peut-être aussi cette évolution qui fait peur aux gens. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui viennent voir en disant « Oh, j'ai moins d'excitation qu'avant, mais bon, bah, vous pouvez rien y faire,
exactement,
c'est la vie, quoi. »
Je crois que voilà, ouais, effectivement, on est dans un travail de deuil de quelque chose aussi. On parlait du deuil pour au sujet d'autres choses, et c'est vrai qu'on est dans cette. Il faut évoluer, la sexualité évolue, l'expression de la sexualité évolue aussi. Et on recherche, bon, au début, ça sera des rapports qui sont beaucoup plus brefs en temps et qui s'allongent avec le temps, mais où certaines phases disparaissent même plus l'âge avance, au profit d'autres expressions de la sexualité. C'est vrai qu'elle n'est pas, dans l'expression générale de la sexualité, ça n'est pas limité qu'aux organes génitaux non plus. Mmh. C'est vrai qu'on parle que un petit peu de cet aspect-là, mais après la sexualité s'exprime à travers tout le reste de, tout le
justement corps. Est-ce que ça peut être une thérapie pour quelqu'un qui, une femme frigide par exemple, de faire plus de préliminaires, ça peut pas l'aider par exemple, ou j'en sais rien, ou celle qui souffre de vaginite dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'elles peuvent pas, si on
y a
s'occupe
une notion,
un peu plus longtemps d'elle,
voilà, il y a une notion de confiance, je pense, à instaurer. Ça, c'est à l'intérieur même du couple que ça doit s'instaurer. Effectivement, il y a une, faut être patient, il faut pas non plus bâcler les choses, et il y a tout un climat à créer aussi.
Et alors, vous parliez aussi tout à l'heure des représentations mentales, mais aussi des conditions, des troubles. J'imagine que, par exemple, après un viol, enfin, je vous parle de choses horribles, évidemment, mais après un choc, je sais pas, avoir fait l'amour avec quelqu'un avec qui on regrette d'avoir fait l'amour, avec quelqu'un, ben, je sais pas.
Même une première expérience.
Ou une première expérience qui a fait mal, etc. Là, tout ça peut bloquer.
Ça laisse des traces, effectivement. Mmh. Effectivement. Mmh. C'est vrai que souvent, en cabinet, je pose la question, comment ça s'est passé la première fois.
Ouais.
Parce que voilà, c'est souvent, ça conditionne. Et chez le garçon, et c'est exactement la même chose. Faut pas croire, il y a des jeunes qui la première fois s'est mal passé, et ça conditionne toute leur vie après. C'est vrai que.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez, c'est une petite parenthèse, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la jeunesse d'aujourd'hui qui, justement, apprend un peu la sexualité à travers les films X, etc. C'est vrai qu'on n'a pas plus tout à fait la même manière d'appréhender la sexualité. La sexualité est beaucoup plus crue aujourd'hui dans notre société. Est-ce que ça va jouer a posteriori sur les troubles sexuels, enfin sur la sexualité des jeunes, par exemple?
Quelque part, oui, puisqu'on est dans un univers, j'allais dire, un petit peu de performance. Et c'est vrai qu'il faut aller vite. Et j'allais dire, la sexualité n'a pas besoin de montre ni chronomètre. Donc, quelque part, il y aura vite un problème, parce que dès qu'il y aura des troubles ou une avancée dans l'âge, on ne sera plus capable de...
Ça devient violent, quand même, cette forme de sexualité. Ah,
C'est une forme très, très violente.
Donc, on a un peu moins de tendresse. qui pouvait mettre en confiance justement les femmes.
Tout à fait. Ouais.
D'accord. Donc, les classifications. Donc, alors on va peut-être reprendre un petit peu avant de faire une petite pause musicale. Donc les troubles sexuels, on les classifie donc en trois catégories, on va dire.
Touche trois aspects de la sexualité.
Voilà, touche trois aspects. Donc le désir, l'excitation et l'orgasme, c'est ça?
Oui.
Donc voilà, on peut parler de problèmes dus à l'anatomie ou en tout cas à l'aspect physique des choses, et puis à une représentation mentale.
Surtout les les représentations, c'est vrai, quand on a éliminé le problème physique, après on va travailler surtout sur les représentations, les croyances, croyances familiales aussi.
La religion, par exemple, aussi.
Ah oui.
Ça peut être un poids qui empêche la personne de
effectivement,
se...
Effectivement, oui, oui. Bon, il y a une notion de pureté, il y a une notion, bon, la virginité, des choses qui sont peut-être un petit peu obsolètes maintenant, mais qui, dans une tradition familiale, souvent, continuent de résonner. Mmh. Et c'est vrai, des...
Vous avez eu des cas, vous, comme ça, vous pouvez peut-être nous raconter
Oui, j'ai eu une jeune femme qui était venue voir et qui était... qui avait eu une aventure avant son mariage. Et qui,
quelle horreur!
Et donc, qui n'était pas vierge pour se marier et qui, en fait, a eu qui avait une sexualité désastreuse parce qu'elle se sentait sale, parce que si, parce que c'est plein de choses. Alors qu'elle-même, dans son manière de fonctionner, donc c'était quelqu'un d'assez. L'emprise familiale faisait que, effectivement, elle se retrouvait dans une situation d'être impure, sale, salie. Et la sexualité était liée à quelque chose de sale dans sa représentation.
D'accord.
Alors que, de manière raisonnée, consciente, elle, pour elle, la sexualité, c'était quelque chose de normal, et puis qu'il fallait s'exprimer comme ça. Quoi.
Justement, est-ce que vous levez le tabou sur cette phrase qui dit si la sexualité va bien, tout va bien dans le couple? Est-ce que c'est révélateur, une bonne sexualité dans un couple?
Ça fait partie de la communication entre deux individus. Oui, c'est un mode de communication qui va beaucoup plus loin, j'allais dire, que la communication verbale, etc. Mais doit pas se limiter qu'à l'acte sexuel, j'allais dire la sexualité. Ça fait partie globalement de la relation de couple. Donc il y a des jeux subtils dans une relation qui font que il y a peut-être pas besoin non plus de forcément du coït pour avoir une vie sexuelle
épanouie
et remplie.
D'accord. Alors, on reprend donc, ça peut venir donc des problèmes physiques anatomiques, du mental, hein, de l'esprit. Donc, on a décrit un petit peu ces troubles. Donc, pour les femmes, ça va être la vaginite.
Non, le vaginisme.
Le vaginisme, pardon.
Le vaginisme, ouais, c'est la contraction, le spasme du vagin qui interdit la pénétration.
On peut reprendre simplement sur les trois étapes, donc les étapes entre le désir, l'excitation et l'orgasme. Donc les problèmes du désir, ça s'appellera comment ça?
Alors le désir primaire, c'est l'absence de désir primaire, c'est la personne n'a jamais éprouvé de désir sexuel, et il y en a, ça existe, il y a des gens qui n'ont jamais ça.
Mais eux, ils sont pas malheureux finalement, peut-être.
Quelque
parce
part
qu'ils
non,
s'y
mais
pas.
Oui, ils s'y connaissent pas, mais quelque part non, parce qu'il leur manque quelque chose. Des gens qui viennent consulter en disant j'ai jamais eu de rapport, mais j'en ai jamais eu envie.
Oh, mais ça, c'est plus mental qu'anatomique, non? Quand même.
Oui, mais ils ont jamais parlé, ça n'a jamais été un problème, jusqu'au jour où il y a une rencontre amoureuse, jusqu'au jour où, d'un seul coup, il y a plein de questions qui font que, ils se retrouvent confrontés au problème qui n'était pas un problème pour eux et qui devient, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans leur vie aussi. Donc, le problème de désir secondaire, donc le problème d'une manifestation, d'une dépression, de fatigue, de surmenage, des choses comme ça. L'insuffisance du désir global, aucune stimulation ne suscite le désir. C'est des gens qui restent de marbre. Et l'insuffisance situationnelle, il faut une stimulation autre que ce qui est dans la norme. Attention au mot. Susciter le désir chez la personne. Après, donc, la phase 2, c'est les troubles de l'excitation. Donc, la capacité à ressentir une grande ou la moindre sensation physique. Donc
c'est quoi comme maladie, ça, par exemple? C'est là le
vagin. Voilà, difficulté de l'érection chez l'homme, donc qu'elle soit absente, brève ou incomplète. Donc on parlait d'impuissance, mais là c'est un mot qu'il faut enlever maintenant, parce qu'on n'est pas puissant, parce qu'on bande. Ça c'est clair et net. Et chez la femme, une lubrification insuffisante qui peut aller jusqu'au vaginisme, ou une douleur à la pénétration ensuite. Voilà,
d'accord.
Tout simplement, enfin, ça c'est le désir. Et la phase 3, au niveau de l'orgasme, l'éjaculation prématurée chez l'homme, ou retardée, ou une éjaculation sans plaisir, voire douloureuse. C'était le syndrome de Casanova. Donc en fait, Casanova avait beaucoup de conquêtes, mais n'a jamais ressenti, il était anorgasmique.
D'accord.
N'a jamais ressenti de désir, ni de plaisir.
Est-ce que ça a un rapport avec l'état amoureux? Non, c'est parce qu'il était jamais amoureux qu'il ne ressentait pas d'orgasme ou...
Bonne question.
Parce que ça doit avoir un lien quand même. Quand on aime quelqu'un, on le désire plus que quand on ne l'aime pas, non?
Mais je crois qu'il a aimé une personne, il me semble, il y a une lettre qui a été écrite, il était amoureux d'une femme.
Mais il ne sait pas s'il a joui ou pas, quoi,
voilà.
C'est ça.
Mais je crois que c'est un amour platonique.
Ah, mais ouais. Ah, parfois, c'est ça, quand on est tellement amoureux.
Voilà, ou éjaculation, ça, je termine avec ça. Et voilà, et au niveau de l'orgasme, absence d'orgasme pour la femme. Voilà.
D'accord. Ok, donc voilà, donc on va peut-être se faire une petite pause musicale, ensuite on va revenir avec vous Stéphane.
Sur la prise en charge.
Sur voilà, la prise en charge en relaxation, en hypnose,
de ces troubles,
ouais. Et puis vous nous ferez dans les 10-15 dernières minutes notre petit...
La petite séance.
Notre petite séance, et bien j'arrive pas aujourd'hui, hein, ça y est, moi, moi ces troubles sexuels me troublent, c'est insupportable. Cette petite séance, donc une petite séance de 10-15 minutes, c'est ça comme,
oui, à peu près. Hein, ouais.
D'accord, bon, c'est juste pour qu'on voit. Donc une petite, petite page musicale, Pauline va nous mettre une petite musique sympathique. Vous n'hésitez pas, hein, si vous voulez demander quelque chose, un renseignement, appelez le 05 55 64 71 11. Nous sommes là avec Stéphane et nous vous attendons.
Radio Vassivière, c'est toute l'année, 24h sur 24, sur 88.6.
Coming out of my cage, I'm doing just fine, I gotta be down. I'm wanting it all, it started out with a kiss. How did it end up like this? Only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab. He's having a smoke and she's taking a drag. They're going to bed and my stomach is sick. It's all in my head. She's touching his chest now, and he takes off her dress now. Let me go. I just can't look because it's killing me, and it's taking control. Jealousy turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes. I'm Mr. Brightside. I'm Mr. Brightside. She's calling a cab. He's having a smoke and she's taking a drag. They're going to bed and my stomach is sick. It's all in my head. Jealousy turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes. I'm Mr. Brightside. I'm Mr. Brightside. I'm Mr. Brightside.
Et voilà, de retour dans les studios de Radio La Civière avec Stéphane Bonin, notre praticien en hypnose, qui dans quelques minutes va donc nous faire une petite séance, notre petite séance mensuelle qui nous fait du bien, qui nous relaxe. C'est bien, ça fait du bien. Mais en attendant, nous parlions donc des problèmes sexuels, des troubles sexuels qu'on peut rencontrer dans la vie. Et donc après les avoir décrits et les avoir classifiés, on imagine donc que vous recevez quelqu'un dans votre bureau qui vous dit voilà, moi j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous allez prendre en charge cette personne pour justement essayer de...
D'abord ça sera un questionnaire sur sa sexualité, la première fois, toute sa vie, enfin bon, sa vie sexuelle et tout ce qui ne va pas aussi, et puis tout ce qui a marché aussi dans sa vie, si les troubles sont apparus récemment ou si c'est vraiment quelque chose qui dure depuis longtemps. Et on fait une anamnèse pour parler scientifique. On essaie de revoir un petit peu, de resituer la sexualité dans la vie de la personne. Et dans son histoire familiale. Comment on se comporte dans la famille? Est-ce qu'on en parlait? Est-ce que c'était tabou? Est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait taire? Ou c'était quelque chose carrément qui était libéré aussi? Ça permet, s'il y a un trouble, de dire, bah, effectivement, il n'y a pas vraiment de cause familiale. Et puis après, ça va être, quelles sont les répercussions dans sa vie de ce qu'il a vu, donc les relations dans son couple ou les relations avec ses partenaires, avec son travail, avec tout le reste, tout ce qu'il peut y avoir, parce que l'environnement est étant, s'il y a du tabac aussi, il faut savoir que la cigarette diminue l'érection par exemple chez l'homme, et c'est vrai que ça, c'est aussi à prendre en compte, le facteur d'environnement. Voilà, donc on se base sur les expériences passées, les croyances familiales.
Alors, justement sur les expériences passées, là pendant la pause musicale, vous me disiez que finalement notre sexualité peut être régie toute notre vie par un petit incident, un petit épisode anodin. Vous me donniez l'exemple d'un petit garçon, enfin d'un homme, qui étant petit garçon a été surpris en train de faire pipi par une fille à l'école, c'est ça?
Dans les toilettes, elle lui a ouvert la porte et il a vite rangé son bigoudi à ce moment-là.
sa coquillette. Et effectivement, et ça l'a rendu éjaculateur précoce.
Effectivement, parce qu'il fallait ranger très vite.
Voilà. Ouais.
Voilà, effectivement.
Comme quoi, il faut qu'on fasse vraiment très attention quand on a des enfants, par exemple.
Oui, enfin, voilà, il faut être. mais en même temps, j'allais dire, faire comprendre que ce qu'il a entre les jambes, ça n'appartient qu'à lui. Et ça fait partie de ces choses à découvrir et ça fait partie de son corps. Donc,
c'est ça, il faut, en tant que parent, bien expliquer la sexualité à ses enfants. Enfin, comment on doit faire?
Bien expliquer, non, il faut que ça devienne naturel. L'enfant posera des questions. Il faut qu'il sente qu'en face, il y a des gens qui soient prêts à répondre, tout simplement. Il ne faut pas aller au-devant des choses.
Mais il ne faut pas que ce soit tabou non plus.
Il ne faut pas que ça soit tabou non plus. Il faut être, dans le juste milieu. Il en apprend beaucoup avec ses copains, ses amis un peu plus tard, ça c'est clair et net. Mais il faut être là aussi pour parler d'autres choses. Et puis, l'attitude qu'ont les parents l'un avec l'autre conditionne l'image du couple et de la sexualité qu'il va y avoir aussi. Donc toutes ces choses font que
C'est vrai que si on a des parents qui sont pas très tendres ou qui sont pas
N'expriment pas leur tendresse ou les choses comme ça, c'est vrai que l'enfant aura du mal à l'exprimer. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui fera pas partie de son modèle, donc de sa référence, etc.
D'accord.
Donc c'est vrai que c'est partie des conditionnements familiaux, mais indirects, c'est-à-dire que ça fera pas, il y aura des représentations qui se construiront et des fantasmes. J'allais dire, on parle de l'univers du fantasme, mais c'est ces représentations complètement sans fondement qui font que on a une telle représentation ou non de la sexualité.
D'accord.
Tout simplement.
Alors vous nous parliez donc de cette prise en charge par l'intermédiaire d'un questionnaire, donc réfléchir à comment on a vécu les choses, comment elles nous ont été apprises aussi, comment les incidents de la vie,
croyances religieuses,
le patrimoine familial, etc. Et puis après.
Alors après.
Il n'y a pas qu'un questionnaire, j'imagine, pour résoudre tous ces problèmes.
Non. Après le but du travail, justement, ça sera, on va travailler, j'allais dire, sur les deux aspects. Bon, faut savoir classiquement qu'on dit qu'on a deux cerveaux, un cerveau qui est rationnel et qui correspondrait au cerveau gauche, un cerveau subconscient droit qui est plus dans les représentations et dans l'imagerie mentale. Et on va travailler avec les deux, en fait. Le but, c'est de faire plutôt une thérapie active dans la mesure où la personne va devenir acteur. Effectivement, on pourrait passer, vaut mieux passer plus vite dans l'auto-hypnose que dans l'hypnose et accompagner la personne pour qu'elle se débrouille vite seule, ce qui me paraît évident puisque il n'y aura pas de thérapeute pour l'accompagner dans ses rapports sexuels.
Vous n'aurez mieux pas.
Il faut rendre la personne autonome le plus rapidement possible et la prise en charge se fait justement dans l'apprentissage d'abord de l'auto-hypnose et après de techniques de visualisation souvent de mise en situation rêvée, entre guillemets, ou idéale, pour permettre à la personne d'aller plus loin ou de dépasser ses difficultés. Mmh. Voilà. Donc la prise en charge se fait à ce niveau-là. Donc les séances, beaucoup de séances à faire chez soi, à travailler avec un CD au début pour que la personne maîtrise l'aspect auto-hypnose, mais après sans ritualiser les choses, éviter de tomber dans le carcan de quelque chose de rigide, plutôt que la personne découvre ces moments où elle peut faire sa séance et puis travailler sur ses représentations.
D'accord.
Voilà. Donc il y a des mises en scène, des mises en situation, l'expression de ses désirs, des choses, la mise en situation avec son partenaire. Donc fantasmer, imaginer. Donc voilà, après là, le travail est à faire ici, et c'est au travers de l'auto-hypnose. À mon avis, c'est l'outil de choix pour pouvoir travailler ça. Il est évident que quand les gens viennent suite à un traumatisme dans leur vie ou une expérience qui s'est très mal passée, au-delà des représentations, la thérapie va être orientée avec l'hypnose sur d'abord désamorcer cet aspect-là de l'expérience malheureuse, pour après lui permettre de travailler sur autre chose. Mmh. Effectivement, s'il y a une trace, j'allais dire, d'une cicatrice émotionnelle, on pourra faire toutes les séances d'auto-hypnose qu'on veut, on ne peut pas avoir non plus quelqu'un qui avance. Mmh. Voilà.
D'accord, très bien. Donc, je vois que vous avez un bouquin, est-ce que vous le recommandez peut-être à nos auditeurs?
Ah oui, oui, c'est le bouquin de Araos, donc l'épanouissement sexuel par l'auto-hypnose, c'est l'édition Satas, donc c'est en Belgique, je crois, Satas. Vous pouvez aller sur le site www.satas.be. Mm-hmm. Donc ils font la vente en ligne de leurs livres. Et...
Ça peut aider de lire ce genre de bouquin?
Ah oui, tout à fait. Bon, en plus, c'est des techniques qui sont très simples et puis font travailler sur les représentations qu'on peut avoir. Donc souvent, je l'utilise, leur tableau, pour que les gens chez eux travaillent sur les images et les représentations qu'ils ont, sur les idées. Alors je leur fais travailler un tableau en deux parties. D'un côté, il y a les représentations négatives par rapport à la sexualité, et en regard de ce qu'ils auront écrit, les images que ça suscite dans leur tête.
D'accord.
Et ils décrivent les images. Ça leur permet déjà de faire une approche, et tout ce qui est positif par rapport à la sexualité, les images que ça suscite. D'accord. Ça leur permet, bon, en cabinet, de pouvoir travailler sur quelque chose de concret qui vient de la personne, plutôt que de leur imposer des idées, et de les accompagner simplement dans le travail qu'ils feront eux-mêmes.
D'accord.
Au niveau de ces représentations.
D'accord. Très bien. Alors, ce que je vous propose, Stéphane, c'est peut-être de passer donc à notre séance d'auto-hypnose, nous, on fait.
Oui,
hein.
On fait de l'auto-hypnose, mais c'est tel que je l'apprends aux gens ici qui viennent pour me consulter pour des troubles de la sexualité, effectivement. On continue dans ça. Donc là, aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire, puisque maintenant, on en est à la chaleur abdominale.
Ouais.
Donc voilà, on va travailler sur ça aujourd'hui. Puis je rajouterai un petit quelque chose pour illustrer aussi la séance d'aujourd'hui.
L'émission d'aujourd'hui,
ouais, ouais.
D'accord. Bon.
Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, je vous propose, alors on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vous laisse le micro, que vous parlez tout seul, que je me tais. De toute façon, moi, je fais ma séance aussi. Pauline va faire sa séance aussi à côté. Vous nous réveillez, hein, si on s'endort. Et puis on vous laisse, et puis je reprendrai la parole à la fin pour terminer cette émission. Si vous voulez appeler juste après l'émission, dépêchez-vous 05 55 74 71 11. Si vous voulez appeler après la séance, dire à Stéphane que c'était bien, que vous avez repris de l'énergie, ça sert à ça quand même, hein,
déjà
à se détendre un petit peu, hein, si vous êtes un peu stressé. Donc vous vous mettez dans un fauteuil, sur une chaise, si vous êtes au boulot, pareil.
Oui, voilà, sur la chaise, sur le fauteuil, avancez le bassin légèrement pour éviter d'être trop contre le dossier.
Voilà.
Et si la tête bascule en avant, vous la laissez aller, posez les mains sur les genoux, simplement sur une chaise. Et puis...
Et puis on y va alors.
On y va alors.
On vous
voilà. Très bien. Alors prenez le temps de bien vous installer confortablement. Et puis, quand vous en avez envie, vous allez fermer les yeux tranquillement. Et si vous n'avez pas envie de fermer les yeux, vous pouvez peut-être simplement fixer un point devant vous, éviter ainsi la dispersion de l'attention et prendre le temps sans vous concentrer, simplement de vous centrer sur vous et d'utiliser peut-être ce que vous avez déjà appris dans les séances précédentes. Et une fois les yeux fermés, je vais vous demander de faire converger vos yeux vers la racine de votre nez. Simplement... Par ce geste, vous allez immobiliser vos pensées, arrêter le flot de ces pensées, et vous allez, à partir de là, vous comptez 1, 2, 3, peut-être, Et simplement penser, je me relâche ou je me détends ou je me laisse aller. Et vous allez vous laisser aller. Vous vous laissez aller tranquillement à l'intérieur de vous-même, sans qu'il soit nécessaire de vous détendre forcément, mais plutôt d'utiliser cette déconnexion, cette coupure entre l'esprit, le corps, et de laisser votre corps, comme lorsque vous vous endormez le soir, se détendre de lui-même, et où vous allez successivement passer par plusieurs phases physiques. Pensez peut-être le mot lourdeur, sentez cette lourdeur qui s'installe aussi, une certaine lourdeur, une certaine mollesse de votre corps, de vos bras, vos jambes, une lourdeur que vous pouvez ressentir dans votre corps, s'installer comme si petit à petit, et tout au long de votre séance, vous perceviez de mieux en mieux l'attraction terrestre sur votre corps, et puis la chaleur qui s'installe, vous pensez chaleur ou mon corps est chaud, je baigne dans une douce chaleur, ce que vous voulez, ou des images qui représentent la chaleur. Le soleil, un soleil d'été par exemple, en bord de mer, ou tout ce qui pour vous évoque une sensation agréable de chaleur, et sentez cette chaleur s'installer, vos bras, vos jambes, agréablement chauds, simplement parce que le relâchement de vos vaisseaux sanguins augmente l'afflux de sang dans vos membres, et vous ressentez ainsi mieux la chaleur. Et continuez ainsi de vous détendre, de vous relâcher, pensez « mon cœur maintenant est calme » et sentez votre cœur battre quelque part en vous, peut-être dans votre poitrine, mais ailleurs, n'importe où ailleurs où vous percevez ce métronome régulier qui, à chaque pulsation, chaque contraction cardiaque, amène le sang dans tous les recoins, dans toutes les parties de votre corps. Et votre respiration calme, profonde, pour laquelle vous pouvez penser « je respire profondément » ou « tout mon être respire » ou « simplement je suis ma respiration » et vous vous laissez bercer ainsi au rythme de vos mouvements respiratoires, tranquillement, laissant ainsi votre diaphragme, au fur et à mesure, presque masser vos organes abdominaux et sentir petit à petit une certaine détente beaucoup plus profonde s'installer en vous, et où vous allez simplement maintenant porter votre attention sur votre abdomen, sur votre région abdominale au niveau de l'estomac par exemple, et vous allez sentir simplement petit à petit percevoir une sensation de chaleur s'installer, peut-être d'abord au niveau de votre ventre, une certaine chaleur, engourdissement, certaines petites modifications pour lesquelles vous allez penser, vous, simplement, quelques mots, mon ventre est chaud, mon ventre est chaud. Quelques mots simples que vous allez vous répéter, que vous pouvez vous répéter simplement, laissant ainsi, effectivement, comme dans vos bras, vos jambes, la chaleur s'installer dans votre ventre. Vous pouvez imaginer ce soleil d'été sur la plage, ce soleil qui monte et qui dans votre ventre augmente. Mon ventre est chaud, mon ventre est tout chaud, et vous pouvez laisser cette chaleur s'installer. Percevoir peut-être au niveau de votre ventre, au niveau de vos intestins, des gargouillements, des borborygmes, qui signent là la détente qui s'installe dans votre abdomen. Mon ventre est chaud, simplement parce que, déclenchant la chaleur, ou l'idée de la chaleur dans votre ventre, vous détendez ce relais qu'est le plexus solaire, ce relais nerveux, laissant ainsi les influx nerveux s'harmoniser, se réguler d'eux-mêmes, et vous installez, vous, dans une détente plus profonde, plus agréable, sans qu'il soit nécessaire que vous dormiez. Plutôt, vous vous laissez aller ainsi et vous vous laissez baigner dans cette douce chaleur très agréable. Vous vous y laissez aller tranquillement, et vous pouvez utiliser ainsi cet état que vous obtenez en répétant les séances tranquillement, sans faire l'effort de faire les choses, mais plutôt de laisser faire et de découvrir comment il est plus facile de vous laisser aller, de laisser faire les choses et d'être surpris de voir ces choses s'installer, ces perceptions, ces sensations s'installer avec vous-même pendant vos séances. et à partir de là, découvrir qu'il est possible dans ces tête-à-tête intimes avec vous et prendre plaisir à laisser ces sensations s'installer tranquillement en vous-même. Et vous pouvez, par exemple, utiliser l'image d'une bulle de cristal, une boule de cristal dans laquelle vous projetez. Vous pouvez projeter certaines choses que vous avez envie de vivre, des choses qui représentent ce que vous souhaitez aussi exprimer au travers de ces moments particuliers d'échange avec l'autre, et où vous pouvez voir ces situations et choisir à quel moment, à partir de quel moment, vous pouvez aussi vous-même entrer dans la bulle et participer à ce qui se passe, et tranquillement utiliser ces images au fur et à mesure de vos séances pour apprendre, pour découvrir et laisser s'installer ces sensations particulières, agréables, et prendre plaisir ainsi d'apprendre de vous-même avec vous-même, et d'apprendre tout ce que votre corps aussi est capable de vous apporter pendant ces séances simples avec vous, où il suffit simplement, après avoir fermé les yeux, faire converger vos yeux, vous pensez « je me relâche, je me détends », pensez « lourdeur, puis chaleur », « mon cœur est calme, ma respiration est profonde et mon abdomen, mon ventre est agréablement chaud », et de vous laisser ainsi baigner et entrer agréablement, profondément à l'intérieur de vous-même, et prendre plaisir de laisser s'installer ainsi, dans ces tête-à-tête intimes, toutes ces sensations agréables en vous, et de découvrir aussi, au fur et à mesure de vos séances, de nouvelles sensations, de nouveaux ressentis, de nouveaux vécus, et faire ainsi l'expérience de vous avec vous, confortablement, dans le plaisir de vos séances. Alors tranquillement, vous allez rester quelques secondes comme ça, pendant lesquelles je vais me taire, et puis ensuite, je viendrai vous accompagner vers la sortie de votre séance, ou plutôt, je viendrai vous montrer comment il vous est possible, à chaque fois, de sortir vous-même de chacune de vos séances, gardant de celle-ci le meilleur pour vous-même. Je me tais quelques instants, puis je viendrai vous raccompagner vers la sortie de votre séance. Ensuite. Alors tranquillement, maintenant, vous allez, d'où vous vous trouvez, ramener votre esprit conscient de là où vous l'aviez laissé tout à l'heure. Simplement, reprendre contact avec votre corps sur la chaise, le fauteuil, le divan, le lit, là où vous êtes installé, sentir, commencer à ressentir les points d'appui, les points de contact de votre corps. Votre dos, vos épaules, votre bassin, vos jambes, jusqu'à vos pieds, peut-être à l'intérieur de vos chaussures, et la position de vos mains, l'une par rapport à l'autre, l'une dans l'autre, ou simplement de part et d'autre de votre corps. Et laissez ainsi toutes ces petites stimulations faire que vos muscles, de cette manière, se rebranchent, se reconnectent à votre esprit conscient, et où, continuant ainsi de vous diriger vers le moment où vous ouvrirez les yeux tout à l'heure, prendre le temps ainsi de revenir le plus confortablement possible vers ici et maintenant. Je vais décompter de 3 à 1 et vous allez penser en vous-même de 3 à 1 de telle manière que lorsque vous pensez 1, vous ouvrez les yeux quand vous le voulez, quand vous l'avez décidé. Et ainsi, maintenant vous allez penser 3 et respirer plusieurs fois bien profondément. Prenez le temps de respirer profondément, tranquillement. Puis vous allez penser 2, sentir votre corps de nouveau souple, léger, mobile. Vous êtes bien dans votre corps, bien dans votre tête, très bien dans votre mental. Et puis, quand vous en avez envie, quand vous le souhaitez, vous pensez 1 et vous ouvrez vos yeux quand vous l'avez décidé.
On laisse Pauline un petit peu récupérer. C'est pas facile hein, de revenir dans la vraie vie après ça. Ça fait du bien. Hein.
Donc voilà. Donc c'était une séance qui était orientée sur le sur la détente beaucoup plus profonde. Et c'est vrai que la phase abdominale est une phase importante dans l'auto-hypnose. Elle permet de réguler tout ce qui est les influx nerveux et les transmissions. Et c'est vrai que ça se traduit souvent par... Bon, c'est souvent la boule au ventre qu'on peut avoir dans l'aspect négatif. Mais c'est vrai qu'au niveau positif, c'est le relâchement, c'est les gargouillis qui se font. Et puis une détente profonde qui s'installe, même si on n'est pas forcément endormi, mais on est bien.
Mmh.
Voilà.
Très bien. Ben, écoutez, ça va être l'heure en tout cas de nous quitter. Hein. Mmh. Vous êtes bien dans le timing. Merci beaucoup Stéphane. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission sur www.radiovassivière.com qui sera mise en ligne certainement dans la journée. Je rappelle votre site aussi. Non, votre site est en chantier. C'est vrai qu'il est en chantier. Mm-hmm. Donc on rappelle en revanche votre adresse où on peut venir vous consulter. Donc c'est à Clermont-Ferrand.
Clermont-Ferrand, 26 rue des Lions d'Arc. Et mon numéro de téléphone 04 73 29 01 68.
Et puis, merci beaucoup. Le mois prochain, on se retrouve donc deuxième mardi du mois de 14 à 15 heures et le quatrième mardi du mois de 10 à 11, me semble-t-il, voilà. Merci beaucoup en tout cas, Stéphane, d'encore nous avoir détendu autant. Et puis, si vous avez des suggestions, des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser vos commentaires sur notre site internet ou toujours appeler au 05 54 71 11. Merci beaucoup. Et puis un petit peu de musique, hein, Pauline, mais une bonne petite musique qui nous ravigote un peu, hein. Allez, bonne journée à tous. She never wanted me. She never wanted me.